réunions qui ont sauté. Et alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, alors ça remonte à 3 semaines en arrière. On avait commencé quelque chose sur Abraham, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ceux qui étaient là, c'était un vendredi soir et j'avais dit on fera une continuité. Et on n'a jamais fait la continuité. Vous permettez que je la fasse cet après-midi, hein? Voilà, on avait vu quatre enseignements de la vie d'Abraham. On s'était arrêté sur le fait que, vous vous rappelez, qu'à Charan, les affaires avaient marché et puis il ne s'est pas laissé arrêter par ça. Et on avait dit que c'est important de ne pas se laisser arrêter, hein? Quand Dieu veut nous amener plus loin, de rien laisser nous empêcher de rentrer dans ses plans pour lui. On avait vu qu'il y avait eu une famine à un moment donné, il avait pris une mauvaise décision avec toutes les conséquences que ça a eu derrière. Et on avait dit qu'il fallait vraiment demander au Seigneur de nous aider quand on était sous pression, à ne pas prendre des décisions avec précipitation, parce que ça pouvait avoir des conséquences derrière. On a vu aussi l'histoire, et je vais y revenir, c'est ma sœur. Et on a vu tout ce que ça a engendré derrière. Je vais y revenir là, ça. Et puis on a vu que Lot aussi, il a été un dommage collatéral. Hein, vous rappelez ? Je voudrais m'arrêter cet après-midi sur peut-être quatre enseignements de plus. Et il y en aura encore une troisième partie. Parce que quand vous lisez, que vous rendez compte, je vous dis, mais comment j'ai pas pu voir ça, quoi ? Hein, vous voyez ? Alors regardez, Genèse 12, verset 14. Et je reviens sur un texte qu'on a lu la dernière fois. Genèse 12, verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon le virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis et des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu dit « c'est ma sœur » ? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Alors, bon, on lit ça, on dit « ok, d'accord ». Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand vous allez au chapitre 20, vous retrouvez une photocopie de ça. Les personnages ne sont plus les mêmes, mais regardez, Genèse 20, verset 2. Genèse 20, verset 2. Il est dit, Abraham, ce n'est pas n'importe qui quand même. Hein. C'est le père de la foi, le père des croyants, celui qui est appelé l'ami de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas un novice hein, de la foi. Il est dit, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Vous voyez, on recommence, vous voyez, les mêmes choses reproduisent toujours les mêmes, voyez, les mêmes erreurs reproduisent toujours les mêmes choses. Hein. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit ? C'est ma sœur. Et elle-même, ne m'a-t-elle pas dit ? C'est mon frère. J'y agis avec un cœur pur et des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. Et on arrête là la lecture. Alors, on a vu la dernière fois, au travers de ces deux textes, qu'il y avait des choses avec lesquelles Dieu ne plaisantait pas. Et on a parlé de tout ce qui était mariage, concubinage, Pâques et toutes ces choses-là. Vous voyez, donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit là-dessus. Hein. Mais en relisant cette histoire, quand même, et on en parle avec Rosetta, je me disais, mais il y a encore un autre enseignement pour nous, là. Il y a encore quelque chose d'important pour nous. Et c'est plus que jamais d'actualité. Et là aussi, c'est quelque chose avec lequel Dieu plaisante pas. Et quelque part, j'ai vraiment envie de dire, Seigneur, aide-nous, aide-moi, parce que c'est tellement important. C'est dans l'attitude d'Abraham, quand même, par deux fois. Bon, une fois, allez, je veux bien, bon, il a eu peur, je ne sais pas. Hein. Des fois, la peur, ça vous fait faire des choses ou dire des choses qu'il ne faudrait pas. Hein. Bon, une fois, la première fois avec Pharaon, c'est ma sœur, mais enfin, quelques temps plus tard, il recommence, quoi. C'est ma sœur. Alors bon, vous le savez. C'était pas tout à fait faux. C'était pas tout à fait vrai non plus. C'était sa demi-sœur. donc son demi-frère, hein, pour Sarah. Donc c'était une partie de la vérité, mais c'était pas toute la vérité. Oui. Et je me dis quand même que quand on lit les textes, que ce soit Pharaon ou Abimélec, on se rend compte quand même que si Abraham avait été clair dès le départ, il n'y aurait certainement pas eu les histoires qu'il y a eu derrière. Parce que, bon, je ne l'affirme pas, j'en fais pas une doctrine, mais enfin, quand il est dit que Pharaon l'a fait enlever, Pharaon, Genèse 12, verset 15, Pharaon, la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait Pharaon avec? Alors, c'est pas écrit, hein, mais on peut penser que il a peut-être couché avec, hein. C'est pas écrit, je l'affirme pas, hein. Mais enfin, vous voyez, je me dis que quand même, d'autant plus qu'on voit que Pharaon derrière lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu me l'aurais dit. D'ailleurs, il le renvoie. Et Abimélec, c'est pareil. Abimélec, il dit, mais il m'a dit que c'était ma sœur, il m'a dit que c'était son frère, et puis je ne l'ai pas touché, voyez. Donc, s'il avait été clair dès le départ, on se rend compte que quand même, les choses n'auraient peut-être pas été si loin. Et là, je crois que ça nous enseigne quand même quelque chose. C'est que il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et parfois même des croyants, qui jouent avec la vérité. Et je crois que là, on touche à quelque chose d'important et que Dieu nous aide. Et quand ce matin, on s'est arrêté là-dessus, prends garde à toi-même, mais ça en fait partie. Jouer avec la vérité, c'est-à-dire que y a un problème, il y a une histoire, enfin, appelez ça comme vous voulez, et puis on ne dit pas toute la vérité. Alors ce qu'on dit, c'est pas faux, c'est la vérité, mais on ne dit pas toute la vérité. Ben, ça, devant Dieu, c'est pas droit, hein. J'ai pas droit. C'est-à-dire que on dit un bout de la vérité, mais on ne dit pas toute la vérité. Ou alors on sort le truc du contexte. Alors on dit la vérité, ça s'est vraiment passé. Mais des fois on ne dit pas pourquoi ça s'est passé. Ou on dit pas, ou on oublie des petits morceaux. Vous savez, les petits morceaux qui nous dérangent ou qui nous mettent un petit peu mal à l'aise. Alors on dit mais ce que j'ai dit, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais on a occulté un autre bout. Donc c'est la vérité sans être toute la vérité. Et ça, devant Dieu, c'est pas droit. Vous voyez? Et je crois que ça, c'est important de le réaliser, hein. Moi, je me rends compte, parfois, dans l'exercice du ministère, des fois, je me suis retrouvé dans des trucs où, ouais, mais pasteur, ceci, cela, et puis vous vous rendez compte en écoutant l'autre côté que, ben, ouais, mais bon, ah, mais ça, il vous l'avait pas dit? Ah, ben non, il l'avait pas dit, vous voyez? Donc, ce qui avait été dit, c'était vrai, mais on n'avait pas tout dit, quoi. Et là, vous vous retrouvez un petit peu. D'ailleurs, il y a un verset, je ne l'ai pas donné, mais ça me vient à l'esprit, dans les Proverbes. Regardez, comme quoi, vous voyez, c'est très intéressant. Proverbes chapitre 18, verset 17. Regardez juste ce verset. Proverbes 18, verset 17. Je vous le lis. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Ah ben oui. Vient sa partie adverse et on l'examine. Ben oui. Je veux dire, quelque part, il faut écouter les deux sons de cloche. Parce que si vous en écoutez un, il ment pas forcément, mais peut-être qu'il vous dit pas tout. Ou pas tout à fait exactement. Alors, ce qu'il vous dit, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait la vérité. C'est un peu comme Abraham, quoi. Ce qu'il disait, c'était vrai. C'est ma sœur, ouais, mais c'est aussi ta femme. Ça, tu l'as pas dit. Vous voyez? Et je crois que ça, c'est important d'en parler parce que parfois, ce genre d'attitude, c'est ça qui, dans certaines histoires, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit même dans les églises, c'est ça qui parfois crée des tensions, crée des difficultés, crée des divisions. C'est que tout d'un coup, c'est comme si on était frappé d'Alzheimer. Alors on dit un morceau, oui, il y a eu ça, ouais, il y a eu ça. Et puis vous vous rendez compte que, ouais, il y a eu ça, mais il y a eu ça, mais ça, tu ne me l'as pas dit par contre. Ce qui fait que c'est vrai, mais il en manque un bout, quoi. Vous voyez? Moi, j'ai envie de dire, mais Seigneur, que l'histoire d'Abraham, là, avec ça s'est passé deux fois. Soit là vraiment pour nous aider à dire, Seigneur, je veux être droit et intègre. On peut faire des erreurs, hein. On peut se tromper, on peut faire des bêtises, et ça, j'ai aucun souci là-dessus. Mais que Dieu nous aide à être droit, à être intègre. Je peux pas simplement dire un bout de la vérité et puis tout d'un coup en occulter un autre parce que ça me dérange un peu ou ça me met un peu mal à l'aise, vous voyez? Ça, c'est pas droit. Et dans cette affaire-là, Abraham, ben, il n'a pas été droit. Et je crois que ça doit nous servir. En tout cas, je dis, Seigneur, aide-moi. Même si parfois, ben oui, parfois, oui, c'est vrai, mais hein, si ça doit me mettre un peu, ben Seigneur, il faut être droit. Et prendre garde à soi-même, ben ça me fait partie, quoi. Et je crois que si Dieu a voulu que cet épisode-là avec sa femme paresse, c'est pour que ça nous aide à être des gens de vérité. Être des gens de vérité. Voilà, bah oui, il y a eu ça. Je ne peux pas en occulter un petit bout. Je ne peux pas en enlever un morceau. Parce que sinon, si j'en enlève un morceau, c'est plus tout à fait la même chose. Oui. Et je crois que là, il y a déjà un premier enseignement pour nous qui nous sert encore aujourd'hui. Vous voyez, cette histoire, elle est vieille, mais Seigneur, aide-nous à être droit. Ça nous évitera bien des problèmes. Et des fois, ça va désamorcer les choses. Ça va permettre de suite, oui, il y a eu ça. Et puis, mais ça désamorce la chose. Vous voyez ? Regardez, un autre enseignement, on va encore un petit peu plus loin. Genèse 16. Et là aussi, ça rentre dans le cadre de ce qu'on a vu ce matin. Regardez, Genèse 16, verset 1er. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Voilà. Alors là encore, vous avez une affaire qui est là. Bon, vous le savez, c'était des choses qui se pratiquaient à l'époque. Bon, excusez-moi de le dire comme ça, j'espère que je vais choquer personne. Il n'a pas fallu le pousser beaucoup quand même, le Abraham. Je n'ai pas l'impression que... Enfin bref, vous voyez. Bon, la culture était comme ça à l'époque, ok. Mais ce que je voudrais faire ressortir, c'est un petit détail qui est là, et qui quand même, moi, m'interpelle, c'est quand est-ce que cette affaire Agar, et donc la naissance d'Ismaël, s'est passée. Parce que cette affaire-là, elle a quand même des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Hein? Ismaël et ses descendants, ça a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Quand est-ce que ça s'est passé ? Ben, vous avez là, au verset 3, un détail. Moi, je l'ai souligné parce qu'on pouvait passer très vite là-dessus. Ça s'est passé à un moment bien précis. Ça s'est passé après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Et ça, c'est très intéressant. C'est un petit détail, mais qui est pas anodin, qui est extrêmement important. Parce que il a commis cette erreur avec toutes les conséquences que ça a eues. Alors, je vais le dire avec mes mots. Alors qu'il est dans le plan de Dieu. Parce que être dans le pays de Canaan, c'était être dans le plan de Dieu. Puisque dans Genèse 12, il lui dit « Va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays de Canaan. » Au début, il s'était arrêté à Charan, vous vous rappelez ? Et puis là, maintenant, il est à Canaan. Donc, il est là où Dieu veut qu'il soit. Alors, déjà que le fait que de ne pas être là où Dieu veut qu'on soit, quelque part, on peut se retrouver dans la galère, vous voyez ? Mais on se rend compte que là, il est dans le plan de Dieu. Il est là où Dieu veut qu'il soit. Et pourtant, c'est là... Mais quelque part arrive l'histoire Agar. Et ça nous montre une chose. C'est que quelque part, on a besoin plus que jamais d'être vigilant. Vous voyez ? Si encore Abraham avait été complètement à côté du plan de Dieu, on aurait pu dire, eh ben voilà, tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, donc eh ben aujourd'hui tu te ramasses, hein, tu fais cette erreur avec Agar, etc. etc. Donc eh ben, ouais, tu n'es pas là où Dieu voulait que tu sois. Tu n'as pas obéi, tu as désobéi. Mais là, c'est pas le cas. Il est là où Dieu veut qu'il soit. Et je crois que ça nous enseigne une chose, c'est que pour nous aujourd'hui, on a besoin d'être vigilant, même si on est là où Dieu veut qu'on soit, même si quelque part on est dans le plan de Dieu, ça ne nous empêche pas de faire attention. Hein. Ça ne nous empêche pas de devoir faire attention, parce qu'on peut se faire piéger. Moi, je remarque que, quelque part, certains se sont fait piéger, alors que ça faisait des... Comme on dit, je veux le dire un peu vulgairement, mais ils avaient des années au compteur. Hein. Salomon, il s'est fait piéger à l'époque de sa vieillesse. Hein. Pourtant, Salomon, c'était un homme de Dieu. J'ai parlé de David avec Bathsheba. David, à ce moment-là, ça faisait un moment qu'il marchait avec Dieu. Il s'est fait piéger. Et de la même façon, nous aujourd'hui, on peut avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de conversion, ça n'empêche pas d'être vigilant, de prendre garde à nous-mêmes, hein, parce qu'on peut se faire piéger de la même manière. Ici, Abraham, après qu'il eut habité 10 années, ça ne faisait pas un an, ça ne faisait pas un jour, ça ne faisait pas 3 jours, 10 ans qu'il était là où Dieu voulait et dans le plan de Dieu. Et bien c'est là qu'il s'est fait piéger. Et qu'il y a l'histoire d'Agar, voyez ? Et moi j'ai envie de dire, mais Seigneur aide-nous. Parce que ça peut faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans que je suis converti, que je marche avec Dieu. Si je fais n'importe quoi, si je ne fais pas attention, si je ne suis pas vigilant, comme dit quelqu'un, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Des fois, parfois, avec Rosetta, on a des nouvelles de croyants, j'allais dire qu'on a eu qu'on a eues dans certaines églises sous notre responsabilité, dont on s'est occupé, des anciennes églises où on est passé. Quand vous voyez des fois ce que certains sont devenus, vous en avez les bras qui tombent. Alors attention, je le dis vraiment sans aucun jugement, parce que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais des fois, et puis alors des trucs, vous apprenez, ben oui, un tel, tel frère, sa femme est décédée, bon, c'est, ça c'est la vie. Ben oui, ouais, il s'est remis avec quelqu'un, ouais, d'accord, oui, ouais, bon, d'accord. Ouais, il s'est remis, ouais, mais encore, ouais, ben, mais il s'est marié, non, ils ont vu comme ça. Et là, je vous cite un exemple, quelqu'un qui a au moins 30 ou 40 ans de conversion, vous dites, mais c'est pas possible. Mais vous voyez, vous dites, mais c'est invraisemblable. Vous voyez, je me dis, mais si on ne veille pas, si on ne prend pas garde à nous-mêmes, mais on est, je veux dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et loin de moi la pensée de jeter une pierre à ce frère auquel je pense, mais je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est pas possible. Bon, on peut faire des erreurs, on peut déraper, on peut. Enfin là, je veux dire, quelqu'un qui démarre dans la foi, bon, il ne sait pas trop, on est obligé de l'enseigner, de lui dire, tu sais, je ne sais pas, moi, le concubinage, tu sais, c'est pas trop. Vous voyez, bon, ok, mais enfin, quelqu'un qui a 30 ou 40 ans de conversion, ça devrait être. Je sais pas moi, ça, ben non. Que Dieu nous aide. Hein. Abraham, cette histoire avec Agar, elle intervient alors que ça fait 10 ans qu'il est dans le pays de Canaan, qu'il est dans le plan de Dieu et pas à côté. Et merci Seigneur si on est dans le plan de Dieu. Hein. Merci Seigneur. Et je préfère être dans qu'à côté. Hein. Mais ça n'exclut pas la vigilance. Prends garde à toi-même. Hein. Voyez, on revient à ce qu'on a vu ce matin. Alors regardez, on continue. Genèse 18. Genèse 18, verset 1er. Vous voyez tous ces épisodes-là que Dieu nous laisse dans sa parole, mais ce n'est pas pour rien, c'est pour que ça nous enseigne quelque chose. Regardez, Genèse 18, verset 1er. L'Éternel à Abraham, hein, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Mamré qui veut dire vigueur, vision. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Et quand il les vit, il courut devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et ces trois hommes, on sait qui ils étaient. Hein, c'est le Seigneur qu'il a eu en face de lui. Hein, c'est une théophanie. Hein, voyez. Et regardez un petit peu la similitude, chapitre 19. Chapitre 19. Là, il ne s'agit plus d'Abraham, il s'agit de Lot. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Et quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il leur dit, voici mes seigneurs, etc. etc. Alors, ce qui me frappe, c'est que vous retrouvez un peu les mêmes choses. Tous les deux, ils sont assis. Quand les anges viennent les trouver, l'un est assis à l'entrée de sa tente aux chênes de Mamré, et l'autre, il est assis à la porte de Sodome. Déjà, ce n'est pas la même chose. Hein. Pas le même endroit. Et vous avez remarqué que les deux qui ont ces apparitions, là, d'anges, ils manifestent le même enthousiasme, le même engouement. Oh là là, oui, parce qu'ils se rendent compte que ceux qu'ils ont en face, c'est pas des hommes, quoi. Vous voyez. Mais ce qui m'interpelle, c'est que bon, cet épisode-là, ces deux chapitres, ils sont là placés juste avant ce qui va arriver avec Sodome et Gomorre, c'est-à-dire Sodome et Gomorre qui va être détruit. Détruite. Voyez. Et on le sait, quand Jésus parle des temps de la fin, il parle de Sodome et Gomorre. Il va dire, il en sera comme au temps de Lot. Voyez. Ce que je veux faire ressortir, c'est que la Bible fait ressortir à ce moment-là, juste avant que Sodome et Gomorre soient détruite, la position de ces deux hommes. Un est assis aux chaînes de Mamré, qui veut dire vigueur, qui veut dire vision, qui pourrait être une image de l'Église. Et l'autre, il est assis à Sodome et Gomorre, avec tout ce que ça comporte et tout ce que ça englobe derrière. Voyez. Et quelque part, ça nous amène à nous poser une question. De la même façon que ces deux hommes avaient une position spirituelle différente l'un de l'autre, alors que le jugement sur Sodome et Gomorre allait tomber, de la même manière pour nous aujourd'hui, alors que Jésus va revenir, c'est quoi notre position spirituelle? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on est assis? Notre position spirituelle, c'est laquelle? Normalement, le croyant, il est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une position spirituelle. Vous voyez, hein, Dieu nous a, en Jésus-Christ, nous avons été élevés. C'est une position spirituelle. Mais est-ce que nous sommes plutôt Abraham ou plutôt Lot? Et ça nous amène à réaliser que si quelque part on est un peu Lot, c'est-à-dire assis dans tout un tas de compromis, etc. Ben quelque part, il faut peut-être réagir. Hein. Moi, je ne sais pas hein, si ce soir, cet après-midi, il y a des domaines où, quelque part, ce n'est pas très clair, il faut en sortir. Hein. Et je crois que si Dieu a voulu que la situation, la position spirituelle de ces deux hommes, juste avant la destruction de Sodome et Gomorre, nous soit retranscrite dans sa parole, un est assis aux chaînes de Mamré, vigueur, vision, avec tout ce que ça englobe derrière, l'autre est assis aux portes de Sodome et de Gomorre, et pour les deux... Ils ont ces apparitions, ces théophanies, ces apparitions du Seigneur qui arrivent, mais c'est pour nous amener à poser une question. Alors que le Seigneur revient, nous, on en est où? Où est-ce que j'en suis, moi? Je crois que c'est important de se laisser interpeller par le Seigneur. Hein, Abraham, il n'était pas parfait, hein, on l'a vu. Mais je crois qu'Abraham, malgré ses manques, malgré ses imperfections, il vivait pour le Seigneur. On sent qu'il avait, c'était quand même un homme qui aimait le Seigneur, voyez. Je crois quelque part que ça nous amène à nous poser une question. Si Dieu a voulu que la position de ces deux hommes sorte, c'est pour nous amener à nous poser une question quant à nous-mêmes. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis plutôt comme Abraham? Bon, j'ai mes manques, j'ai mes faiblesses, j'ai des choses encore à rectifier, mais dans mon cœur, il y a ce désir vraiment de marcher avec Dieu, de l'honorer. Ou est-ce que comme Lot? Je sais beaucoup de choses, mais je suis assis dans tout un tas de compromis et il faut que j'en sorte. Hein. Il faut que j'en sorte. Et ça, je crois que c'est important. Voyez. Et puis regardez, un dernier épisode, là aussi un truc qui pourrait passer inaperçu, mais qui est très important et qui nous fait toucher du doigt. Mais alors, quelque chose qui est tellement actuel aujourd'hui. Regardez, Genèse 21, verset 22. Et on pourrait se dire, mais tous ces épisodes-là qui sont dans la vie d'Abraham, que Dieu fait ressortir, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il s'est passé ça, il a dit ça? Mais c'est parce que ça a des choses à nous enseigner. Regardez, Genèse 21, verset 22. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Déjà, rien que ça. Moi, j'aimerais bien que les inconvertis disent ça de moi, hein. Dis donc, toi, tu te dis chrétien, mais Dieu est avec toi, quoi. C'est un peu ça. Donc, vous voyez, il n'était pas parfait, Abraham, mais quand même, il y avait quelque chose sur lui, voyez. Jure-moi maintenant, ici, par le nom de mon Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Il aurait pu s'arrêter là, mais il y a la suite. Et puis, je le jurerai, on se tape dans la main, on mange ensemble, et terminé. Mais regardez la suite. Mais Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Mais qu'est-ce que tu vas lui raconter cette affaire? Mais tais-toi, bon, tout allait si bien jusque-là, qu'est-ce que tu vas mettre ça au milieu? Et il le fait. Et regardez. Et c'est franchement, je me dis, mais c'est hyper intéressant. Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là, tu ne m'en as point informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimélec, et ils firent tous deux alliance. Je voudrais qu'on retienne le verset 25. Moi, je l'ai souligné. Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau. Alors bien sûr, il faut savoir qu'à cette époque-là, enfin, surtout dans cet endroit-là, les histoires de puits, c'était important. Qui avait un puits, il avait le plus important. C'était désertique, hein, donc les histoires de puits, c'était des sacrées histoires. Hein. Bon. Mais vous savez ce qu'il fait Abraham, là? Tout allait bien, Dieu est avec toi, jure que hein, tu me montreras de la bienveillance, je le jurerai. Et puis, avant de se toper dans la main, de faire alliance, le voilà que le Abraham il va faire des reproches. Mais tais-toi. Ben non. Vous savez ce qu'il fait là, Abraham? Il ne tombe pas dans ce que j'appelle le non-dit. Le non-dit. Je dis rien. Je laisse courir, je laisse passer. il le dit. Et ça, c'est très important. Parce que vous le savez autant que moi, hein, que d'histoires dans les familles, au travail, dans les églises, à cause du non-dit. Il y a un problème, on ne dit rien. Il y a un truc, il y a une histoire, il y a eu peut-être un quiproquo. On a, voyez, et on ne dit rien. Et on ne dit rien. Et des fois, mais tu as été le voir pour lui dire, ah non, surtout pas. Eh, voyez, et on ne dit rien. Le problème, c'est que avec les non-dits, vous savez ce qui se passe. C'est que si jamais ça sort, quand ça sort, en général, ça sort pas bien. Surtout si ça sort 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans après. Ça sort pas bien. Et il aurait pu se le garder en disant, oh, c'est pas grave. Mais je me dis que s'il avait gardé ça, peut-être ça aurait pu se transformer comment? En amertume, en animosité. Et avec le non-dit, quel qu'il soit, familial, professionnel, dans l'église, etc., avec le non-dit, le diable se régale. Avec ça, parce que ça crée des divisions, ça crée des dissensions, ça crée de la distance, parce qu'on ne dit rien. Vous voyez, vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois on est venu me dire, mais tu as été le voir pour lui dire? Non. C'est pas moi qu'il faut que tu lui dises. C'est... Parce que ça... Ah ouais, mais... Il lui a dit. Il lui fit des reproches. Et moi, ce qui m'interpelle dans l'affaire, c'est le verset 26. L'autre, il n'est même pas au courant. C'est pour ça que c'était bien qu'il le lui dise, parce qu'il s'est rendu compte que le pauvre Abimélec, il était pour rien, lui, dans l'affaire. C'était une histoire avec ses serviteurs. Bon, et je me dis, mais vous vous rendez compte? S'il n'avait rien dit, il aurait pu garder grief à Abimélec, et celui-ci, il n'était même pas au courant. Mais c'est dingue, cette affaire, vous voyez? Mais combien de fois ça arrive encore aujourd'hui, ça? Vous savez, je m'y mets dedans comme ça. On peut blesser quelqu'un sans s'en rendre compte. On peut faire du mal sans s'en rendre compte. Peut-être que je vous l'avais déjà dit, mais je vais vous le redire, hein, je ne sais plus. Avant de partir d'Ajaccio, il y a un jour, un frère il vient me voir, avec un frère avec qui j'ai eu jamais aucun problème. Vraiment un brave gars, un brave frère. Il vient me voir et puis je sais pas ce qu'on se dit. Puis un jour, il me dit, tu sais, il faut que je te dise... Tu te rappelles? Je dis ouais, je vois vaguement, ouais. Il me dit, ben, tu peux pas savoir ce que tu m'as fait mal. J'ai regardé, j'ai dit, ah bon? Il me dit, ben oui, tout ça. Et en fait, je l'avais blessé sans m'en rendre compte. Monsieur, il n'y avait rien de... Mais j'ai fait, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Et il l'avait gardé, et en fait, son affaire, elle remontait à 2 ans en arrière. Donc je me suis excusé, je lui ai demandé pardon. Qu'importe, même si je ne l'ai pas fait exprès, même s'il n'y avait pas de mauvaises intentions. Voyez, mais je me souviens, ce frère il m'a pris dans les bras, il m'a dit bah, merci, ça me fait du bien. Voyez, mais quelque part, il avait quelque chose contre moi. Moi, je n'étais même pas au courant parce que je ne m'en suis même pas rendu compte, mais s'il ne me l'avait pas dit. Voyez, le non-dit. Le non-dit. Voyez. Et je crois que c'est important de soulever des choses comme ça, parce que avec ça, le diable, il s'amuse. Ouais, t'as vu l'autre, t'as vu celui-là. Eh bien, s'il y a quelque chose, va le voir, va lui dire. Et puis, surtout, va le voir tout de suite. Parce que quand on attend 5 ans, 10 ans, on en oublie des détails après, machin, ah bon, je me rappelle. Ouais, vaguement, ouais, mais on a pu... va le dire tout de suite. Et parfois, ça peut désamorcer. Et même, c'est pas parfois, mais souvent, ça désamorce. Et même s'il y a quelque chose, au moins un peu... Et puis, ça peut arriver que des fois, il n'y ait rien, parce que l'autre ne s'est même pas rendu compte. Vous voyez, si c'est volontaire, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, là, dans cette affaire, je me dis, ben Abraham, il a bien fait de lui faire des reproches, parce qu'il s'est rendu compte que le brave gars, le brave Abimélec, eh ben, il était pour rien. Et moi, j'ai envie de dire, voilà encore un point où, Seigneur, ben, aide-moi. Parce que des fois, oh, mais moi, on m'a dit, ah, mais moi, je suis quelqu'un de tranquille, je suis quelqu'un de paix. Ouais, t'es quelqu'un de paix, mais tu le gardes. Ouais, mais moi, je veux pas la guerre. Mais c'est pas question de guerre, c'est, s'il y a quelque chose, il faut le dire. Parce que tu dis rien, mais après, tu le gardes et ça... Et ça tourne, c'est la machine à laver, là, vous voyez. Et le problème, c'est que, au bout de quelques temps, quand ça ressort, ça sort pas bien, en général. En général, ça sort pas bien. Ça, c'est comme le linge qui tourne. Au bout d'un moment, vous le retrouvez, votre pull, il est chiffon. Ben, c'est pareil. C'est pareil, c'est oui, mais en principe, bon, je veux croire qu'on est tous des instruments de paix. Je veux bien croire, oui, des fois je dis rien parce que je suis un instrument de paix, parce que je veux pas faire d'histoire, mais c'est pas vouloir faire des histoires, qu'à un moment donné, écoute, là, il y a eu ça, mais je comprends pas. J'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose, parce que des fois on peut être maladroit aussi, hein. Ouais. Mais au moins, voilà, on se dit les choses. Et Abraham, ben là, il nous laisse un exemple. Et moi, j'ai envie de dire, bon, ben Abraham, il avait un problème avec la vérité. Mais au moins au niveau de ça, il n'avait pas de problème. Quand il y avait quelque chose, il le disait. Et c'est tellement mieux. Au moins les choses sont claires. Et puis voilà, bon. Après, bon, il peut y avoir des fois des choses. Hein, peut y avoir des fois des. On peut ne pas être d'accord. Moi, j'accepte qu'on ne soit pas d'accord. Mais on peut se parler. Et ça, c'est important. Voyez? Et je crois que tous ces épisodes de la vie d'Abraham, ils sont là pour nous faire grandir. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, je veux grandir, aide-moi. Aide-moi. Et on verra que on continuera une autre fois. On fera un troisième volet de Abraham, un autre point. C'est quelque chose que vraiment le Seigneur m'a fait du bien avec ça. Hein, mais tous ces épisodes, Dieu nous a mis pour qu'on tire instruction. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, aide-nous. Hein. Aide-nous afin que vraiment on puisse grandir et qu'on ne reste pas des enfants, vous voyez, des enfantillages là, et qui nous empêchent d'aller de l'avant, mais qu'on puisse devenir des adultes dans la foi. Alors que Dieu nous aide, hein, et qu'on puisse vraiment aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole, ces choses que tu mets devant nous encore. Je te demande de nous aider et je te demande de m'aider parce que le premier concerné, c'est moi. Seigneur, merci parce que heureusement que tu ne regardes pas à nos travers, à nos fautes. Quand je vois la vie d'Abraham, je me dis, mais Seigneur, tu as même toi dit, il priera pour toi, c'est un prophète. Et quand on voit, Seigneur, les erreurs qu'il faisait, Seigneur, heureusement que tu ne nous juges pas selon nos péchés, selon nos erreurs. Je veux te dire merci parce qu'au travers de ça, j'y vois ta grâce, j'y vois ta compassion. Mais en même temps, Seigneur, je veux être sérieux avec toi. Alors, Seigneur, aide-nous. Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure. Dieu, c'est mon désir de t'honorer. Alors, Seigneur, c'est vraiment aide-nous à marcher dans cette voie-là, avec ce désir-là, Seigneur, plus que jamais. Bénis mon frère, bénis ma sœur, afin que les uns et les autres on puisse grandir. Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Parce que ce que nous voulons, c'est que, comme pour Abraham, les autres puissent voir que, Seigneur, tu es avec nous. Puissent voir qu'il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose d'autre que les hommes ne connaissent pas. Seigneur, nous voudrions tellement refléter vraiment ta lumière, Seigneur, être ce sel, cette lumière, Seigneur. Alors à toi la gloire. Garde-nous dans ta paix, Seigneur, aide-nous à rentrer chez nous les uns les autres, Seigneur, et sers-toi de nous encore dans cette semaine. Je te demande vraiment de nous garder, de nous protéger. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen.